Bonsoir à tous. Je vous propose de commencer cette conférence, donc la seconde conférence organisée ici à Alès par la librairie Jean Calvin, consacrée cette année à ce thème, les protestants à l'œuvre, commémoration du 500e anniversaire de la Réformation oblige, puisque cette année on commémore le salut par la foi seule, mais ce serait oublier que les protestants, suite à cet adage, à ce postulat, on pourrait dire, eh bien, ont largement œuvré hein, tout au long de leur histoire. Et nous avons déjà eu l'occasion de voir avec Céline Borello comment ils avaient justement intégré cette question des œuvres dans leurs prédications au cours de l'époque moderne, notamment au XVIIIe et XIXe siècle. Hein. Céline Borello était venue nous faire une conférence passionnante sur ce sujet à la médiathèque au mois de janvier. Ce soir, nous abordons un autre thème, peut-être plus pratique, puisqu'on parle des œuvres, et nous sommes très reconnaissants d'accueillir, honorés, de recevoir Gabriel Cadierec, qui est maître de conférence honoraire à l'Université de Paris-Sorbonne, et qui nous fait donc la joie et l'honneur de venir ce soir nous présenter le travail d'une femme. On parle peu des femmes dans le protestantisme français au XIXe siècle, et l'ouvrage paru tout récemment aux éditions Ampelos vient contribuer à combler ce manque, publié donc sous la direction de Gabriel Cadierec. Ce journal, c'est le journal d'Eugénie Bost, qui donc a écrit ici, pendant toute une période de sa vie, son histoire, comment elle a œuvré aux côtés de John Bost, qui est le fondateur, un des fondateurs, j'ai envie de dire, au fond, au moins avec Eugénie, hein, des asiles de la force hein, qui ont pris une ampleur considérable, qui continuent d'exister encore. Hein, et Gabriel Cadierec va nous en parler tout de suite. Je lui laisse donc la parole. On va lui laisser la parole à peu près pendant 45-50 minutes. Et puis après quoi, hein, vous pourrez intervenir, rebondir sur ce qui a été dit en posant des questions, en développant des aspects peut-être que vous auriez pu ou voulu prolonger, approfondir. Donc ça sera l'occasion d'un échange entre nous, même si nous sommes nombreux. Je pense que nous n'aurons pas de mal à approfondir ce sujet, qui est un sujet tout à fait passionnant et qui était extrêmement important hein, au cours du XIXe siècle protestant. Voilà, je vous laisse la parole.
Oui, si on parle... Ah oui, alors ce truc-là...
Vous le pensez ? Non ?
C'est des trucs pour les hommes, ce machin-là.
Non, attendez, je vais le mettre là, voilà.
Je ne suis pas sûre que l'écolier, ça aille, parce que si ça ballotte, ça fait quick-quick, tin-tin. Bon. Non, c'est toujours été un problème. Ça s'appelle d'ailleurs un micro-cravate, donc vous voyez bien que ce n'est pas pour les dames. Bon, alors, cette année... on fête le 200e anniversaire de la naissance de John Bost. C'est pour ça qu'il y a floraison de bouquins. Je pense que le nom de Bost vous dit quelque chose à beaucoup d'entre vous. Et je voudrais juste, avant de commencer à vous parler de génie, vous dire ce que représente la fondation Bost aujourd'hui, la fondation de John Bost. C'est en 1848 que John Bost a fondé le premier asile. Et quand il est mort en 1881, il y avait 9 asiles. Et son œuvre a été reconnue d'utilité publique en 1877. Et après sa mort, on a dit les asiles John Bost. Et depuis maintenant 1969, on dit la fondation John Bost. Aujourd'hui, donc 9 asiles quand il meurt. Et aujourd'hui, la Fondation John Bost regroupe 32 structures sanitaires et médico-sociales. La moitié se trouve en Dordogne, et on peut dire que c'est le plus gros employeur de la Dordogne, sur le site originel de La Force. Et l'autre moitié se trouve essentiellement en région parisienne et en Normandie. La Fondation John Bost accueille tous les types de handicap et de maladies mentales. Et depuis quelques années, notamment dans la région parisienne, elle s'intéresse à l'autisme. Et la Fondation John Bost a aussi un centre de formation médico-sociale, psychologique, éducatif, qui regroupe actuellement 600 étudiants. Ce qui fait la spécificité de cette fondation, c'est l'accueil. Un accueil qui est personnalisé et qui est réservé, adapté à chaque, comme on dit, résident. Ceux qui sont soignés là, on les appelle les résidents. Et il y a un triple objectif, c'est répondre à un besoin de soins, répondre à un besoin de vie, répondre à un besoin de sens. Et justement, ce besoin de sens, c'est encore une des spécificités de la Fondation de John Bost, c'est l'accompagnement spirituel qui tient compte des possibilités des résidents à comprendre et à participer à ce qu'est le message évangélique. Et actuellement, la Fondation regroupe 1500 résidents qui sont soignés par 2000 soignés, entourés, accueillis, 2000 professionnels. Si les résidents sont, je pense, encore majoritairement protestants, l'œuvre est laïque et il y a des résidents qui sont accompagnés à la messe. Quand on a assisté à un culte à la force, on ne l'oublie jamais. On ne l'oublie jamais à cause de la participation des résidents. Ils interviennent dans le culte, ils coupent la parole, ils manifestent, et ils manifestent aussi souvent leur bonheur, leur joie, et notamment quand ils chantent. On voit quel bonheur les habite. C'est très impressionnant. On peut dire que la Fondation poursuit aujourd'hui la mission que John Bost lui avait donnée. John Bost avait dit « Ceux que tous repoussent, je les accueillerai au nom de mon maître. » Et il ajoutait « Et je planterai des fleurs sur leur chemin. » Aujourd'hui, la Fondation reste à la pointe des recherches dans le domaine psychiatrique. Alors, la Sécurité sociale assure le quotidien des résidents, des professionnels, ce qui n'était évidemment pas le cas du temps de John Bost, je reviendrai là-dessus. Mais il faut bien voir que ce sont les ressources qui sont apportées par les donateurs qui permettent à la Fondation de John Bost de continuer ses recherches dans le domaine psychiatrique. Parce qu'elle cherche des méthodes qui ne sont pas remboursées par la Sécurité sociale. Donc, pour avancer dans ces thérapies, il faut qu'elle ait de l'argent et c'est grâce aux donateurs. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui sur la Fondation de John Bost, avant de faire un flashback et de revenir sur John et Eugénie, les fondateurs. Ça m'ennuie de voir Madame debout.
Ah, mais pourquoi ? Il y a une chaise juste à côté.
Quoi ? Ah non, mais...
Non, il y a une chaise juste à côté.
Il y a une chaise quand même.
Oui,
bon.
Oui.
Bon. Alors, John Bost est né à Moutier-Grandval, dans le canton de Berne, en Suisse. Il est né le 4 mars 1817. Donc, c'est son bicentenaire qui a été largement fêté à la force il y a 15 jours. On a le samedi 4... Non, c'était vendredi 4, je ne sais plus. Bon, par là, quoi, 4-5, on a ouvert le nouveau musée qui s'appelle la maison John et Eugénie Bost. Et je ne sais pas si vous avez l'affiche de l'ouverture, il y a dessiné comme un dessin d'enfant qui représente une petite maison. Et c'est un dessin qui a été fait par un résident. Et c'est très, très important, ça, parce que ça veut dire que dans ce musée, dans chaque pièce, il y a l'œuvre d'un résident. D'un résident qui s'est manifesté de cette façon en dessinant. Ou alors, l'exposition qui est actuellement, c'est une exposition d'œuvres en fil de fer, qui a été des œuvres en fil de fer qui a été réalisée par un résident il y a quelques années. Il avait été abandonné par sa mère, il est entré à 3 ans à la Fondation Bost. Il y est resté toute sa vie et il a créé une œuvre et on l'appelle le caldaire de la force. Et ce sont des objets en fil de fer absolument extraordinaires. C'est l'exposition temporaire actuelle. John Boss ne s'appelait pas John. Il s'appelait Jean. C'est un scoop, hein. Mais comme à sa naissance, son père était à Londres, et quand il a dit « Ah, j'ai un fils, il s'appelle Jean », Jean, en anglais, c'est Jean, et Jean, c'est une femme. Donc, son père a dit « Non, 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 c'est John », et ça lui est resté. Son père, ami Bost, était un pasteur évangélique. C'était un prédicant du réveil. Ami et sa femme Jenny ont eu 11 enfants. Ils ont eu une fille et 10 garçons. Et sur les 10 garçons, il y a eu 6 pasteurs. Évidemment, les 6 pasteurs n'étaient pas tous de la même obédience, sinon ça aurait été trop simple. 6 pasteurs, au moins 7 opinions. Bon. Donc, il y avait des pasteurs qui étaient très, très, très évangéliques, orthodoxes, comme John Bost, et puis d'autres, comme son frère aîné Augustin, qui était au contraire tout à fait libéral. Mais ils s'entendaient tous fort bien. Très jeune, John a eu des problèmes de santé. Notamment, il a eu d'horribles migraines qui ont duré d'ailleurs toute sa vie, des crises de migraines terribles. Et alors, il n'a pas fait d'études poussées et ses parents l'ont mis en apprentissage chez Hörlinger. Puis ensuite, il a découvert la musique et il était tellement doué qu'une fois, Franz Liszt l'a écouté, l'a entendu et il lui a dit « Persévérez, jeune homme ». Donc, encouragé ainsi par... Il était à Genève, encouragé par Franz Liszt, eh bien, il est arrivé à Paris pour y mener une carrière de concertiste. Et il a fréquenté la chapelle Tête-Boue. Alors, la chapelle Tête-Boue, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est une paroisse très évangélique qui est fréquentée par la HSP parisienne. La HSP, haute société protestante, touchée par le réveil, qui a créé sa chapelle et qui a comme pasteur Edmond de Pressensé. Et John Bost est adopté par cette société et qui va lui procurer des leçons de musique et il va vivre de ses leçons de musique. Et puis, il rencontre à Paris, en 1839, le pasteur Louis Meyer, qui est un pasteur luthérien des Billettes. Billettes, c'est la paroisse luthérienne de Paris, rue des Archives. Et elle, oui, c'est une vieille paroisse, parce que le temple des Billettes a été donné aux luthériens par Napoléon Ier. Donc, le pasteur Louis Meyer, il a fondé... dès 1833, une société qu'il appelle la Société des Amis des Pauvres. Ce sont des jeunes gens qu'il réunit, ils habitent ensemble, ils prient, etc. Et ensuite, les jeunes gens vont pendant toute la semaine, puisqu'ils se réunissent toutes les semaines, le pasteur leur a confié un certain nombre de familles démunies qu'il doit visiter et apporter à sa famille démunie une aide matérielle. Et je voudrais dire que c'est Louis Meyer qui a fait ça pour les protestants, mais c'est tout à fait semblable à ce que fait à la même époque Frédéric Ozanam, qui lui a créé la Conférence de la Charité, qui est devenue ensuite la Société de Saint-Vincent-de-Paul. Et c'est dans ce contact que John Bost a eu avec des familles démunies, qu'il a accompagnées dans les hôpitaux, dans les prisons, c'est là qu'est née sa vocation. Et John Bost a dit, en parlant du pasteur Meyer, « En nous occupant des pauvres, le cher pasteur Louis Meyer s'occupait de nos âmes. » Et comme donc il décide de devenir pasteur, mais il ne se sent pas encore prêt à commencer sa théologie, alors il va accepter une place de précepteur en Irlande, où il va rester un an et demi, et puis à son retour en France, pour devenir pasteur, il pense qu'il faut qu'il se recycle en latin et en grec, et donc il décide d'aller suivre des cours au collège de Sainte-Foy-la-Grande. Alors le collège de Sainte-Foy-la-Grande, c'est le collège protestant pour les garçons. Évidemment, les filles, on n'a rien. Bon. Donc, le collège protestant... Non, il y a des écoles privées, comme celle de Madame Reclus. Bon. Donc, le collège de garçons. Les gens viennent de toute la France. Et je vous parlais de la HSP et de sa chapelle Têteboue. Eh bien, les enfants précensés, et les enfants malais, les Schlumbergers, tout ce que vous voulez, font leurs études à Sainte-Foy-la-Grange au collège protestant. Malheureusement, ça c'est l'historienne qui vous parle, les archives de ce collège ont complètement disparu. On ne sait pas ce qu'elles sont devenues. Donc, John Bost arrive à Sainte-Foy à l'automne de 1841. Il a 24 ans et ses condisciples, avec qui il va suivre les cours de latin et de grec, ont plutôt 10 ans de moins. Mais John s'occupe et avec de jeunes professeurs du collège, il a organisé des réunions d'évangélisation dans la région entre Bergerac, Sainte-Foy et La Force. Et c'est comme ça qu'un hobereau local, M. Ménardy Ponterie-Escott, François Ménardy Ponterie-Escott, le remarque, il voit l'activisme de ce jeune homme qui veut être pasteur, bon, et puis qui suit les cours à Sainte-Foy. Et puis, John Bost, à la fin de 1843, se dit « bon, ça y est, il a recyclé son latin et son grec » et il part pour Montauban en année préparatoire à la faculté de théologie. Et c'est à ce moment-là, alors qu'il a juste commencé ses cours, qu'il reçoit un appel de la paroisse de La Force de la part de M. Ménardy Ponterie. Alors, à La Force, il y a bien un pasteur qui correspond, qui dépend de l'Église nationale, un pasteur concordataire, comme on dit, mais il ne fait pas l'affaire parce que les gens de La Force, et notamment M. Ménardy Ponterie, ne le trouvent pas assez évangélique. Et il se rappelle le jeune étudiant là, qui faisait des réunions d'évangélisation dans la région. Et c'est comme ça qu'il fait appeler John Bost comme futur pasteur de l'Église libre. Alors, ses professeurs à Montauban lui disent « Oui, oui, très bien, allez-y. » Donc, il l'encourage à partir. Et c'est ainsi que John Bost arrive en 1844 à La Force et qu'il va loger chez le notable monsieur François Ménard Ponterie-Escott. Et comme le temple est occupé par le pasteur officiel, Monsieur Ponterie, je m'arrêterai là maintenant, Monsieur Ponterie, qui a un terrain à La Force, donne le terrain pour construire un autre temple. Donc, il y a à la Force, il y a deux temples. Bon. Et il donne le terrain pour construire un temple qui est inauguré en 1846. Il est inauguré et consacré par le père de John, Ami Bost. Oui, je disais, c'est une parenthèse. À La Force, il y a deux temples. Il y a le temple qui correspond au temple de l'Église nationale, concordataire, le vieux temple, et puis il y en a un autre. Alors, ce n'est pas le temple qui a été consacré en 1846, qui est là aujourd'hui, mais un autre temple qui a été construit par John Bost en 1867 et qui est adapté au public des asiles. Mais j'y reviendrai. Donc, un nouveau temple inauguré en 1846, mais il n'y a pas de presbytère. Donc, John Bost loge dans le manoir des Ponteries qui s'appelle Ménard, M-E-Y-N-A-R-D. Et là, il va donner des leçons aux deux enfants, Charles, qui a 12 ans, et Eugénie, qui a 10 ans. Il va leur donner des leçons d'allemand, d'anglais, de musique, et peut-être aussi de latin. Il donne des leçons. Et Eugénie, alors, a 10 ans. John va habiter Ménard pendant 5 ans. Donc, et Eugénie passe de 10 à 15 ans. Et que croyez-vous qu'il arriva ? Vous avez tous lu La Nouvelle Héloïse. Eh bien, La Nouvelle Héloïse est tombée amoureuse de son précepteur, et Eugénie aussi. Et cela ne plaît pas du tout aux parents. Et les parents, une fois que Eugénie et son frère ont fait leur première communion, eh bien, ils demandent à John de quitter les lieux. Et John va se faire construire un presbytère à La Force. Et à La Force, En 1848, l'année précédente, John a réalisé son vœu, son projet, qui était de créer un asile pour les jeunes filles en difficulté, les jeunes filles en danger moral, comme il en avait rencontré à Paris et même à Montpellier et à Montauban. Des jeunes filles orphelines, abandonnées, et même, ça c'était un horrible culot, à accueillir aussi des jeunes filles illégitimes. Car à l'époque, on pensait que le vice se perpétuait de mère en fille. Donc, mais il a accueilli ces jeunes filles. Et ce premier asile s'appelle la famille évangélique. Il a été inauguré en 1848. Et M. Ménardi, à l'époque, était encore d'accord sur cet asile. D'ailleurs, je crois qu'il a aussi donné le terrain pour le construire. Les jeunes filles qui étaient accueillies là recevaient une triple instruction. Une instruction scolaire, il y avait des institutrices, une instruction ménagère, une instruction religieuse. Et elles étaient formées professionnellement à un métier. Le métier d'avenir à l'époque, c'était d'être domestique. Alors évidemment, les plus douées pouvaient être formées pour être institutrices. Mais la plupart, le plus grand nombre, c'était d'être domestiques. Et ensuite, elles étaient placées dans des familles protestantes, bien sous tout rapport, et on verra que c'était Eugénie qui se chargeait de placer des jeunes filles. Cet asile, la famille évangélique, est le seul dont John avait le projet. Tous les autres asiles ont été créés pour répondre à un besoin, empiriquement. Quand, dans le milieu protestant, on apprend qu'à la force, il y a un asile qui recueille les petites filles et les jeunes filles, donc des pasteurs écrivent, nous avons ici, comme on disait à l'époque, une idiote, deux idiotes, on vous les envoie. Surtout pas, dit John, je n'en veux pas, je veux des jeunes filles à qui je peux donner une éducation. Mais les pasteurs en question n'ont pas du tout apprécié qu'on leur refuse, et comme John l'avait refusé, eh bien, ils ont fait déposer les petites idiotes à la porte du presbytère. Et donc, John s'est retrouvé comme ça, avec des petites filles, des paquets de chiffons, dit-il, des petites filles qui ne savaient à peine marcher, qui ne savaient pas parler, etc. Et donc, il a commencé, avec sa très fidèle domestique, à accueillir ces petites idiotes, je mets des guillemets, mais c'est le terme de l'époque, ces petites idiotes dans son presbytère, puis ça, il y en a eu trop, alors il a construit l'asile suivant, Bethesda, qui était destiné à accueillir ces petites filles. Et puis, pour la construction de Bethesda, M. Pontery n'était plus du tout d'accord. Il a dit, c'est pas possible, vous ne pouvez pas accueillir toute la misère du monde. Mais John a dit, tant pis. Et donc, M. Ménardi a fermé sa porte et sa bourse, et c'est ainsi qu'a été construit Bethesda. Et puis, ensuite, un jour, deux jours, plusieurs fois, parmi ces idiotes, il y avait des épileptiques. Et ce n'était pas possible de garder ensemble les petites filles idiotes et ces petites filles ou ces jeunes filles épileptiques qui avaient des crises terribles et qui effrayaient tout le monde. Donc, il a fallu qu'ils construisent un asile pour les épileptiques. Et c'est le troisième asile, Siloé. Mais c'était toujours pour les filles. Et nous, on dit les garçons. Et donc, il a dû construire de la même façon encore trois asiles pour les garçons. Mais ensuite, ces jeunes filles et ces garçons vieillissaient. Et donc, il a fallu penser à la retraite. La retraite et les dames qui étaient isolées, les dames seules. Il a fallu construire des maisons de retraite. Mais ces maisons de retraite, surtout dans une société tellement structurée qu'est la société du 19e siècle, on ne pouvait pas mettre ensemble des dames qui avaient eu des revers de fortune ou et puis des institutrices qui étaient d'un certain âge, avec d'anciennes domestiques ou d'anciennes ouvrières. Donc il a fallu construire deux asiles séparés pour les vieilles dames. Alors, un où elles avaient des chambres particulières et l'autre où elles pouvaient vivre en dortoir. Et donc c'est de cette façon tout à fait empirique qu'ont été construits les asiles de John Bost. Quant à Eugénie, eh bien, elle n'avait plus le droit de voir John. Seulement le dimanche, quand elle allait au culte avec ses parents et qu'elle tenait l'orgue. Alors elle tenait l'orgue, donc on peut imaginer qu'elle jouait de tout son cœur, puisqu'il fallait qu'elle montre à John qu'elle avait bien profité de ses leçons, et puis en même temps qu'il sent derrière ses notes l'amour qui l'a transporté. Et puis Eugénie a eu 18 ans. Et quand elle a eu 18 ans, les demandes en mariage ont commencé à affluer. Et vous pensez que tout ce que le Sud-Ouest peut avoir de jeunes hobereaux, protestants et célibataires, eh bien, toutes ces possibilités de demande en mariage ont afflué à Ménard. Et chaque fois, Eugénie refusait. Ces demandes en mariage, c'était toujours sur le même genre, pour demander la main de cette demoiselle si charmante, à l'éducation si parfaite, mais surtout la jeune fille si riche, car entre-temps, elle avait perdu son frère. Et comme elle avait perdu son frère, elle était la seule héritière. Et l'héritière d'un domaine de 400 hectares, 12 métairies, des vignobles de Bergerac, etc. Donc, c'était devenu un parti extrêmement demandé. Alors, parmi ces lettres, je vais vous en lire une, parce qu'elle est tellement caractéristique de la société du XIXe siècle qu'elle mérite d'être lue. Donc, c'est une lettre qu'a reçue le père d'Eugénie. « Monsieur, quoique ma famille n'ait point l'honneur d'être connue de vous, et que ce soit la première fois sans doute que notre nom résonne à votre oreille, nous avons espéré néanmoins que vous accueillerez avec bienveillance le contenu de ces lignes qui ont à vous transmettre une mission bien délicate et de nature à éveiller votre plus vive sollicitude. Nous avons préféré nous adresser directement à vous que d'avoir recours à des tiers, c'est les fameux marieurs et marieuses. Aussi, je vous demande la permission d'aborder franchement et loyalement la question qui fait l'objet de cette lettre. Et tout d'abord, je commence par vous dire que ma famille est la famille d'Utile de Nérac, Lot-et-Garonne. Elle est très ancienne dans le pays, protestante de vieille souche. Nos ancêtres se sont distingués. Plusieurs d'entre eux ont préféré la mort et l'exil à l'abjuration. C'est vous dire les sympathies profondes qui nous attachent au culte que vous professez également. Mon père a été pendant 8 ans député de Nérac. Il est officier de la Légion d'honneur et au moment d'être nommé pair de France, la Révolution de février est venue mettre un terme forcé à sa vie politique. Il s'est retiré maintenant dans son château de Sainte-Catherine, près de Nérac, qui est une des plus jolies propriétés du Lot-et-Garonne. Mon père est veuf. Il n'a que 2 enfants, mon frère, qui est un jeune homme de 27 ans, et puis moi, monsieur, qui suis marié à Bordeaux avec monsieur Adrien Lafonféline. Mon frère, ayant entendu parler de mademoiselle, votre fille, de ses attraits, de ses vertus et de son éducation parfaite, qui en font une femme accomplie, a désiré solliciter de vous l'honneur de s'allier à votre famille en épousant cette charmante jeune personne à laquelle il s'estimerait très heureux d'unir son existence. » On ne demande plus une fille en mariage comme ça aujourd'hui. Si la santé de mon père lui eût permis de faire le voyage, d'ailleurs on ne se marie plus. Si la santé de mon père lui eût permis de faire le voyage de la force, il serait venu près de vous, vous faire part verbalement du désir de son fils. Mais forcé de renoncer momentanément à se déplacer, et ne pouvant plus ajourner l'impatience de mon frère qui le sollicite si vivement pour vous écrire, il me charge de cette mission dont je m'acquitte avec une satisfaction infinie. J'idolâtre mon frère et tout ce qui touche à son bonheur m'est aussi cher que ma vie. Je sais que la position de fortune de mon frère ne peut point être comparée à la vôtre. Et c'était pour nous une grande raison d'hésitation lorsque nous avons appris que vous n'attachiez point un intérêt capital à cette circonstance, mais que vous désiriez surtout trouver dans votre gendre des qualités de cœur et de caractère qui vous offriraient des garanties de bonheur pour votre fille. Je n'ai pas hésité alors à élever mes prétentions jusqu'à solliciter sa main, tant je suis sûre que mon frère ne démentira aucune de vos espérances et qu'il fera à la fois votre bonheur et celui de votre charmante demoiselle. Mon père a 800 000 francs. Nous sommes deux enfants. C'est vous dire quelle est la fortune de mon frère, et mon père fera présentement pour lui tous les sacrifices possibles. Ma famille portait avant la Révolution de 89 le titre de baron, que mon grand-père et mon père, avec leurs idées libérales, n'ont pas jugé convenable de porter, mais qu'ils ont laissé la faculté à mon frère de reprendre, ce qu'il a fait à sa majorité. Il signe donc Dutille, baron de la Tuque. Permettez-moi de terminer, monsieur, en vous exprimant les vœux que je forme pour que la question que je viens de me faire le plaisir de vous soumettre reçoive votre agrément. Que sait-on du frère ? Rien. On ne sait même pas son prénom et on ne sait pas s'il a une situation. Mais il est certain que s'il épousait Eugénie, il en aurait une. Car nous sommes pendant le Second Empire et qu'à ce moment-là, si il épousait Eugénie, le baron de la Tuque, s'il épousait Eugénie, eh bien, il deviendrait un grand propriétaire terrien, un notable, et donc, avec le système du Second Empire des candidatures officielles, le préfet le choisirait certainement pour être député, son père ayant déjà été député. Donc, il serait certainement choisi comme député avec ce système. Donc, vous voyez que derrière la fortune de génie, donc il y a beaucoup de désir de cette fortune, mais que c'est tout un système social qui est derrière. Bon, mais Eugénie refuse. Elle refuse, elle veut son John. Et le père ne veut pas, avec l'idée que John ruinera sa fille. Avec ses idées de construire des asiles, il ruinera sa fille. Et il faut donc, que va faire Eugénie pendant de longues années ? Eh bien, elle va accompagner son père à travers le domaine et elle va s'initier à la gestion du domaine. Et puis, un jour, le père est très très malade, il fait appeler John, et là, vous savez, vous connaissez peut-être ce tableau de Greuze qui représente l'accordé de village. Donc derrière, ça se passe comme ça, le père prend la main de John, la main d'Eugénie, les réunit. Le problème, c'est que John a déjà 44 ans et Eugénie 27. Alors 27 ans pour une jeune fille à l'époque, c'est mathusalémique. Néanmoins, donc, et le père meurt. Trois mois, la mère a dit ça a assez duré. Trois mois après, ils étaient mariés. Et ils ont eu quatre enfants. Ils ont perdu un bébé. Et donc, ils ont eu deux filles d'abord. Le troisième, la petite fille, le bébé est une fille. Et quatrième, un petit garçon. Il faut voir que l'amour que Eugénie porte à John est inséparable de sa foi. C'est parce qu'elle pense que Dieu a envoyé John à la force pour réaliser son œuvre et elle se sent appelée à seconder John. Elle voit en John l'ouvrier de Dieu et elle admire John de toute son âme. Alors que, personnellement, je pense que si elle n'avait pas été là, les asiles n'auraient pas connu l'ampleur qu'ils ont eue. Et pourtant, oui, on peut dire que c'est vraiment grâce à elle, entre autres, parce qu'elle avait, je reparlerai, un sens de l'organisation. Elle avait l'œil à tout. Elle pensait à tout et elle s'est complètement dévouée aux asiles. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'elle dit dans son journal, une fois, qu'elle se sent indigne de l'affection que John lui porte. Alors que elle l'a tellement apporté elle-même. Mais je pense que si elle dit ça, c'est parce qu'elle voit en John plus qu'il n'est. Elle voit que Dieu se sert de John pour réaliser une œuvre et que c'est pour ça qu'elle lui apporte toute l'aide qu'elle peut. Une aide qui est morale et financière. Et je pense que l'aide morale, pour moi, c'est vraiment la plus importante. Parce que John a un caractère difficile. Je vous ai parlé de ses migraines. Quelquefois, il perd conscience. C'est ce qu'elle appelle ses comas. Il perd conscience. Il ne sait plus où il est. Et puis, il a quelquefois aussi une impossibilité de décider. Et il prend une décision, puis l'inverse, etc. Et elle, qui est tellement organisée, qui a organisé sa journée, même pas heure par heure, mais minute par minute, tout est réglé. Eh bien, John, hop, il renverse tout. Et pour elle, c'est très, très difficile. Et voilà. Donc ça, c'est ce qu'on voit dans le journal. Pourquoi vous vous rigolez ? Pourquoi ça vous fait rire que elle soit... C'est vrai, elle le dit plusieurs fois dans son journal. Bon, alors... Oui. Bon,
je me dis que ça ne doit pas être la seule femme à vivre ce genre de choses.
Je ne sais pas, je ne peux pas juger. Bon, alors le journal, voilà, c'est son journal. Alors, le livre est très gros, mais pensez que j'en ai supprimé les deux tiers. Et que ça a été le plus difficile, ça a été de tailler dedans. Quoi enlever ? Alors, j'ai enlevé ce que je considérais comme des répétitions. Par exemple, le dimanche, John fait 3 cultes. Bon, ben, tous les dimanches, il fait 3 cultes. À la force, au temple, deux au temple et le troisième dans un des asiles. Donc, il fait 3 cultes. Ensuite, ce que j'ai supprimé largement, c'est qu'ils passent leur temps à faire des visites et à recevoir des visites. Donc, comme en plus, c'était des tas de noms que je ne connaissais pas et que je ne savais pas qui étaient ces gens, j'ai taillé. Bon, mais je pense aussi que la façon dont j'ai taillé est très subjective. Je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, j'ai été très sensible à Eugénie, maîtresse de maison. Maîtresse de maison et maîtresse d'un domaine de 400 hectares. Maîtresse de maison qui ne sait jamais combien elle aura de gens au repas. Et même à coucher, que John va lui... Combien il va lui ramener de gens. Quelquefois, quand elle écrit son journal le soir, elle ne sait même pas le nom des gens qu'elle a reçus à midi. Parce que quand des gens viennent pour amener des enfants ou de futurs résidents à la force, eh bien, John dit « Mais venez donc déjeuner chez moi !» Et donc, elle ne sait jamais. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que c'est tellement important son domaine, parce qu'elle a besoin que son domaine rapporte le plus possible. Et c'est pour ça que dans son domaine, et j'ai été très sensible à ça, elle achète les canetons à la douzaine, les oies, les dindes, les petits cochons, dont elle parle souvent, les petits cochons, les confits de canard, les confits de porc et tout ça, les lessives. Vous pensez les lessives qu'il doit y avoir là ? Bon, bref, tout ça.
C'est bon.
Donc, John a des sautes d'humeur et plus il vieillira, plus ça sera difficile pour elle. Et ce qui m'a frappé aussi dans ce journal, quand on le lit aujourd'hui, c'est la soumission d'Eugénie. Eugénie qui est une femme remarquable et qui obéit totalement à ce que veut John. On trouve dans son journal, au fond, je désapprouve, mais je me soumets. Et une autre fois, elle écrit « Une fois de plus, j'ai été combattue entre deux devoirs dans lesquels mes propres désirs n'étaient pour rien. » Alors, est-ce qu'elle se soumet, parce que c'est la situation des femmes au XIXe siècle, est-ce que c'est dû à l'éducation qu'elles ont reçue, ou bien c'est à cause de l'amour qu'elle porte à John ? Point d'interrogation. Quant au soutien financier, je lui reviendrai, il a été soit ponctuel, soit massif. Mais il faut bien voir que c'est elle qui a financé entièrement la maison de retraite qui s'appelle Le Repos en 1875. Mais elle est allée au fond de ses possibilités elle a hypothéqué 2 ans de revenus de ses vignobles, et ce sont les revenus de ses vignobles qui lui permettaient de vivre le quotidiennement. Ce n'est pas la vente des petits canards, hein, même si elle engraisse les canards gras et les petits cochons gras. C'est pas ça. Même si elle envoie sa cuisinière vendre des fraises au marché pour essayer d'avoir quelques ressources. Non, ce sont ses vignobles, ses vignes qui lui rapportaient. Et donc, elle hypothèque ça pendant 2 ans et elle n'a plus d'argent. Et comme elle n'a plus d'argent, elle en tombe gravement malade. Et c'est là que se révèle la maladie de cœur qui l'emportera à 53 ans. Donc, Eugénie s'est complètement donnée à l'œuvre de son mari. Mais elle est restée dans son ombre. Et donc, dans les livres qui ont été publiés, notamment dans l'entre-deux-guerres, La Cité prophétique et d'autres livres comme ça, elle a été quasiment oubliée. Et la lecture de son journal permet justement d'avoir un autre regard sur les asiles. John Bost a réalisé une grande œuvre et qui continue aujourd'hui de fasciner. Cette œuvre fascine pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'elle existe toujours et qu'elle ne cesse d'augmenter. Elle grandit, cette œuvre. Ensuite, par l'énergie qu'il a mise dans cette construction. Et aussi par les méthodes de soins qu'il a employées et qui étaient à contre-courant de ce qui se faisait à l'époque dans les hôpitaux psychiatriques. Dans les hôpitaux psychiatriques, les gens étaient enfermés. On leur mettait des camisoles de force. Tandis que lui, non, la liberté. Les asiles sont dans le village de la force. Ceux qui le peuvent se promènent dans le village, rencontrent les villageois. Ensuite, la beauté, les fleurs. Je mettrai des fleurs sur leur chemin. Et puis, une thérapeutique par le travail. Tout le monde travaille. Tout le monde travaille pour les... Il y a toujours plus malade que soi. Donc, on peut aider les autres. Et puis, aussi la musique. Alors là aussi, ça a été une révélation pour John. Une fois, il jouait un cantique à son piano. Et puis, les petites idiotes, les deux premières, là, se sont approchées, elles ont entendu et elles se sont mises à chanter le cantique. Et donc, ça a été pour John une révélation. Elles sont capables, elles chantent juste, elles sont capables. Donc, on peut, contrairement à ce qu'on pensait à l'époque, que les gens étaient irrémédiablement idiots pour la fin de leur jour, non, ces gens sont éducables. Donc, la musique a été aussi une façon d'une thérapeutique. Et enfin, quelque chose aussi de très nouveau, c'est l'hydrothérapie qu'il a utilisée notamment pour les épileptiques. Et Eugénie a été présente à tous les stades, à tous les instants, et elle a rendu cette œuvre possible grâce à son sens de l'organisation et aussi à sa bourse. Alors, je vous disais, présente... Sa présence, bon, elle rassure son mari, surtout quand il a des crises nerveuses, qu'elle est à côté de lui, elle le rassure. Et puis, elle le soigne physiquement. Alors, Eugénie, ça aussi, ça m'a frappé dans le journal, elle adore soigner les gens. Elle soigne tout le monde. Elle soigne ses domestiques, elle n'en a que 19 domestiques, mais enfin, je veux dire que dans les domestiques, il y a les jardiniers. Il y a les cochers, 4 cochers quand même. Il y a les bonnes d'enfants. Elle apprend des jeunes filles allemandes. Chaque fois, c'est le fiasco, ça ne marche pas. Parce qu'elle est trop exigeante. Bon. Il y a les bonnes, etc. Donc, ça fait 19 en tout. Et l'homme a tout faire. Bien pratique. Bon. Eugénie soigne les gens physiquement. Oui, elle soigne les pasteurs de passage qui se sont luxés l'épaule parce qu'ils sont tombés dans un escalier. Elle soigne ses domestiques, elle soigne les gens des asiles, notamment les directrices, elle leur envoie des remèdes. Enfin bon, elle soigne même ses animaux. Elle fait une potion au camphre pour le bœuf, gras évidemment. Bon, quand, à mesure que la santé de John s'est détériorée, Eugénie a été de plus en plus présente, et notamment quand John faisait des tournées de collecte. Alors, au début de leur mariage, il fait des tournées de collecte, il va en Écosse, en Angleterre, il va en Suisse, à Paris, etc. Et puis, il va sur la Côte d'Azur, où est l'aristocratie britannique. Et là, il recueille de l'argent. Mais quand John, à partir des années 1875-76, John se fatigue très vite, et donc Eugénie l'accompagne dans ses tournées de collecte. Et elles sont tellement fatigantes, ces tournées, que c'est elle qui tombe malade. Eugénie a aidé à l'extension des asiles par le travail qu'elle a accompli. Elle a rendu possible la construction des asiles. Alors, par exemple, au début de leur mariage, John lui donne à recopier des textes, des rapports. Mais très vite, il s'est aperçu qu'elle les rédigeait fort bien. Donc, elle a rédigé ses rapports. C'est elle qui assure la correspondance pour placer les jeunes filles dans les familles protestantes. C'est elle qui assure l'installation des asiles, c'est-à-dire les meubles, la vaisselle, la literie, etc. En 1878, John crée un comité des dames, mais qui le dirige, c'est bien Eugénie. Elle supervise les travaux de couture de Bethesda. Et ces travaux de couture, c'est notamment pour les vendre dans les ventes de charité. Et les Bost sont extrêmement liés à la famille Monod. Et à Genève, il y a une fille d'Adolphe Monod qui est mariée à un pasteur de Genève et qui envoie du tissu qui est travaillé à Bethesda et qui est renvoyé à Genève pour, une fois que les travaux ont été faits. Et c'est Eugénie qui marque les prix de vente de ce qui a été fait. Donc tout ça, c'est encore du travail pour elle. Elle soigne le moral des directrices des asiles, parce que ça ne doit pas être tous les jours drôle, la vie des directrices. Donc elle soigne leur moral et elle essaie d'éviter les susceptibilités entre elles. Par exemple, il y a un moment, un pasteur, sa femme est toujours de mauvaise humeur et elle se dispute avec tout le monde. Et donc, Eugénie est là pour rassurer et pour inviter, pour faire des cadeaux. Bon. Et puis, un autre exemple, un jour, l'instituteur des garçons, sur un coup de tête, s'en va. Eh bien, qui remplace l'instituteur des garçons au pied levé? Eh bien, c'est Eugénie qui va tôt le matin faire des cours en attendant l'instituteur suivant. Quand John Bost est en voyage, eh bien c'est elle qui inspecte quasi quotidiennement les asiles. Et puis, je vous disais, elle tient table ouverte. D'où l'importance, je reviens, sur les canards, les dindes, les oies, les poulets et les petits cochons. Les confits, les pâtés truffés, les conserves de fruits, les conserves de légumes. Et l'été, elle envoie aux asiles des paniers de fruits. Donc, vous voyez, il y a une sorte de complémentarité entre les asiles et son domaine de ménard. Et quand je parle de complémentarité, je vous parlais tout à l'heure de la lessive, qui est énorme quand même, et ce sont les jeunes filles des asiles qui font la lessive de ménard et qui font également la couture de ménard. Ce sont les jeunes filles de la famille qui font les chemises de John et qui lui tricotent ses chaussettes. Mais Eugénie, les jeunes filles de la famille viennent apprendre la cuisine auprès de la cuisinière de Ménard. C'est pour ça que c'est vraiment interdépendant. Et Eugénie donne des cours de chant aux asiles. Elle dirige la chorale. Eugénie, je vous l'ai dit plusieurs fois, a un sens inné de l'organisation. Et c'est ce sens de l'organisation qui lui a permis, par deux fois, de recevoir un synode. Recevoir le synode à la force, cela signifie qu'il faut tout prévoir, le coucher, les repas, les transports, parce que c'est isolé, la force. Donc, ils arrivent d'où, les pasteurs? Ils arrivent à Bergerac, Poisson de Foy. Donc, il faut savoir les horaires de train, aller les chercher, etc. D'où les voitures, les chevaux, les cochers, etc. Et puis, le planning des synodes. Donc, deux fois un synode. De même, elle a décidé d'inviter toute la large famille, je vous rappelle, John a eu 10, ils étaient une sœur, il a eu 9 frères, donc elle décide d'inviter toute la large famille de son mari pour les noces de diamants de ses beaux-parents. Ça veut dire qu'en n'ayant que les frères, leurs épouses, quelques enfants, ça lui fait 33 personnes à héberger en 1874, 33 personnes à héberger à Ménard. Et elle fait frapper des médailles d'argent, une par famille, avec un verset biblique d'un côté et le rappel de cette belle journée, des noces de diamants de ses beaux-parents. Elle organise aussi dans la cour un repas de 250 personnes. Et c'est à cette occasion qu'un de ses beaux-frères écrit dans un journal de Genève, où il raconte la scène, qu'il la compare à Napoléon à Austerlitz, ayant l'œil à tout. Et puis je reviens maintenant sur l'aide financière qu'elle a apportée aux asiles. Je vous l'ai dit déjà, John n'a pas construit ses asiles en fonction d'une théorie. Il construit quand le besoin s'en fait sentir. Quelquefois, le matin, il ne sait pas qu'il aura décidé l'après-midi qu'il y aura un nouvel asile. Et le problème, évidemment, c'est bien de construire, mais avec quel argent? Parce que non seulement il faut assurer la construction, mais il faut assurer la vie quotidienne du personnel et des résidents. Alors, on peut dire que John, à la fois, s'en occupe et ne s'en occupe pas. Il s'en occupe, dans une certaine mesure, puisqu'il fait ses tournées de collecte, je vous ai dit, en Écosse, en Angleterre, en Suisse, à Paris, dans le Midi et sur la Côte d'Azur. Mais le manque d'argent n'a jamais été un obstacle pour John. Voilà ce qu'il disait. « Si je n'ai pas de déficit dans ma foi, je n'en aurai pas dans mes comptes. » Et donc, avec ce principe, il comptait à la fois sur Dieu et sur Eugénie. Alors, quelquefois, il recevait des chèques sur lesquels il ne comptait pas. Ça, c'était bien. Mais sinon, il était du genre à dire au comptable, « Veuillez avec ma femme. » Et donc, on voit la pauvre Eugénie, quelquefois, complètement angoissée. Donc, je vous ai dit en 1876, quand il s'est agi de construire le repos, qu'elle s'est retrouvée sans le sou, et puis en 1879, voici ce qu'elle écrit. « Très triste tout le jour, accablée par l'état de nos finances, les engagements que je dois acquitter et l'absence de revenus. Je n'ose parler à John d'arrangements à faire avec les asiles avant d'être complètement ruinée. Mes enfants s'aperçoivent de ma misère, j'en suis navrée, je suis à bout. L'avenir me préoccupe pour Henri que je dois placer en pension. » Mais pourrais-je seulement payer cette pension? Ah, que je suis malheureuse. Donc voilà ce qu'elle peut dire dans son journal. Alors, je vous ai dit tout ce qu'elle faisait pour diriger sa maison, pour les asiles, pour diriger son domaine de 400 hectares, vendre ses vins. Mais à toute cette vie tellement pleine déjà, il faut ajouter quand même les soins qu'elle donnait à son mari, à ses enfants, et combien elle s'est occupée de l'instruction de ses enfants. Quand ils sont petits, elle leur apprend à lire, à écrire, etc. Puis, très vite, elle est débordée, puisque les asiles augmentent, et donc elle fait appel à des jeunes filles allemandes qui servent de bonnes d'enfants et qui doivent apprendre l'allemand à ses filles. Mais en même temps, elle leur donne aux jeunes filles allemandes des leçons de français. Et donc, elle est extrêmement occupée. Elle commence ses journées très tôt le matin, quelquefois à 5 heures. Et quand elle doit, par exemple, donner des leçons d'orgue à des jeunes gens des asiles, eh bien, elle donne son orgue à 6h30 du matin. Et elle fait faire des dictées à son petit garçon à 7h du matin. Donc, elle est débordée de choses à faire. Alors, au sujet de ce journal de génie, on peut avoir plusieurs lectures. On peut s'intéresser à la vie quotidienne d'une famille protestante du Sud-Ouest, entre la Bible et les canards, les vignes. Et puis, on peut s'intéresser aux réseaux familiaux et au-delà, aux réseaux protestants parisiens et même nationaux et même européens, car les asiles John Boss sont en relation avec des églises de toute l'Europe occidentale. Et je rappelle que les asiles ne vivent que de dons. On peut s'intéresser aussi à l'éducation des enfants au XIXe siècle, éducation et instruction, pour les filles et pour les garçons. Alors, les filles, finalement, Eugénie a cherché comment instruire ses enfants. Elle a eu recours à un pasteur de Sainte-Foy-la-Grande. Ses enfants allaient suivre des leçons de littérature, là, à Sainte-Foy-la-Grande, une fois par semaine. Et puis ensuite, elle a pensé que le mieux, c'était de venir à Paris. Et son fils est allé à l'école alsacienne et ses deux filles ont été dans des cours privés. Je rappelle qu'à l'époque, quand ses filles vont dans des cours privés, il n'y a pas encore de lycée de jeunes filles. Le journal d'Eugénie montre combien dans ce couple, l'amour et la foi se sont confondus. Et plusieurs fois, Eugénie dit que c'est dans la Bible, dans la prière, qu'elle a cherché la paix. Et quand ils avaient des grands soucis, eh bien, elle allait le retrouver et il faisait une prière, il chantait un cantique, il lisait la Bible. Et plusieurs fois, elle parle du bien immense que lui font les cultes de son cher John, puisqu'elle l'appelle toujours mon cher John, sauf à la fin. Donc, elle dit combien ça lui fait du bien de pouvoir partager ainsi avec son cher John. Mais quelquefois, entre eux, il y a un peu de difficultés. Et à ce moment-là, elle est tellement malheureuse et elle se réfugie dans sa chambre, elle ouvre sa Bible et elle prie et elle dit « Le secours me vient de Dieu, il m'assiste chaque fois que je l'appelle. » Et c'est cette foi qui lui a permis de tenir et de réaliser tout ce qu'elle avait à faire dans la vie quotidienne. Et c'est pourquoi on a pu écrire sur sa tombe « Je t'ai glorifié sur terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. » Mais est-ce que dans ce verset, est-ce qu'elle s'adresse à Dieu ou à son cher John? Je vous laisse la réponse. J'ai fini. Merci de m'avoir.
Bien, alors bravo pour ce tour de force, de nous avoir montré combien cette femme orchestrait une multitude de choses et qu'elle se trouve finalement au croisement de diverses histoires, vous l'avez dit, hein, celle de la vie quotidienne. Et c'est vrai que ça m'a marqué en lisant ce journal, combien on découvre.
Oui, mais peut-être que si ça avait été taillé par un homme, ça aurait été différent. Vous auriez eu un autre texte. Peut-être.
Oui, alors en quoi c'est gênant?
Ah ben non, mais.
Moi, ça me passionne. Et d'ailleurs, je tiens à le dire, hein, ce livre n'est pas réservé aux femmes, je le dis d'emblée. Hein, chers messieurs.
Non, il y a John. Pas. John est très présent.
John est très présent, mais la vie d'Eugénie est tout à fait passionnante et on découvre la vie quotidienne, on découvre le monde protestant de l'époque.
Le monde protestant.
Tous les pasteurs
oui.
qui y passent. Elle n'hésite pas d'ailleurs à y aller de ses commentaires hein, lorsqu'elle parle de. Elle a une phrase assassine pour parler d'une prédication du frère de John. Elle dit que sa prédication était froide et sans cœur. Hein, c'est qui? C'est Théophile? Non,
je ne sais plus.
C'est vrai qu'on découvre ici un univers de multiples univers et je vous encourage vivement à découvrir et à lire cet ouvrage Femme de tête, de cœur et de foi, d'ailleurs publié dans la collection exceptionnelle, hein, figure exceptionnelle du protestantisme. Voilà, je suppose que vous avez sans doute des points que vous voudriez voir éclaircir. Et c'est à vous maintenant donc d'intervenir pour poser vos questions, éventuellement faire vos remarques. Complément, pas trop long, s'il vous plaît, pour que tout le monde puisse avoir la parole.
Oui, madame. Est-ce que ces enfants ont pris la relève ? Oui et non. C'est-à-dire, elle a eu deux filles et un fils. La fille aînée, Leïla, a épousé le médecin qui avait soigné son père. Elle a eu quatre enfants. Et il y a effectivement une... Alors, elle épousait le docteur Charron. Il y a une demoiselle Charron qui a été très active dans l'entre-deux-guerres aux asiles. Ensuite, sa deuxième fille a épousé le professeur même Jalaguier. Elle habitait Paris. Quant au fils, Henri, eh bien, il a mené une vie de gentleman farmer à Ménard, continuant à aimer les chevaux et les voitures. Voilà. Donc, il a vécu à Ménard. Le château de Ménard, malheureusement, a brûlé à la Libération. Il y a on ne sait pas pourquoi. Les uns disent c'est la faute des résistants, les autres disent c'est la faute des vichistes. Non, ça on ne sait pas. Donc il a brûlé, malheureusement, bien des documents ont brûlé avec, et du mobilier. Voilà. Donc, à la mort de John, c'est le pasteur Réroux qui est le directeur de l'asile des sourds-muets de Saint-Hippolyte-du-Fort qui prend la relève et qui va diriger les asiles John Boss pendant 30 ans. C'est ce qui est très bien raconté dans la BD. Très, très bien. Ça part, si vous voulez, la BD, elle part de l'arrivée du pasteur Réroux et c'est à partir de cette arrivée que se déroule en sens inverse l'histoire des asiles que je vous ai racontée, moi, dans le bon sens.
D'autres questions ? Oui.
Oui.
Pourquoi allemande ?
Eh ben, elle ne parle pas de jeunes filles anglaises, elle demande des jeunes filles allemandes, même en 70. Alors, c'était jeunes filles allemandes, pour que ses filles apprennent l'allemand. Peut-être qu'elle pense qu'elle-même peut assurer l'anglais, mais pas assez l'allemand. Eugénie est pleine de contradictions. Parce que d'un côté, elle veut que ses enfants aient la meilleure instruction possible. Et donc, je vous dis, il est dicté à 7h du matin, etc. Mais dès qu'il y a la moindre chose, le moindre nuage, etc., elle dit, non, il ne faut pas les fatiguer. Alors, c'est amusant de voir que cette contradiction. Oui. Donc, elle a eu plusieurs jeunes filles allemandes. Alors, le gros problème, quand j'ai attaqué ce journal, je ne savais rien. Et donc, j'ai commencé pendant 6 mois à lire et à faire des listes de noms. Et essayer de savoir, quand quelqu'un était cité, qui ça pouvait être et ce qu'il faisait. Bon, ça a bien duré 6 mois que je fasse ça. Ce que j'ai fait, moi, pour faciliter la lecture, c'est que j'ai mis des annexes à la fin, avec le nom des jeunes filles allemandes, le nom des dentistes, les médecins, les directrices des asiles, différents asiles, etc., les institutrices, donc j'ai fait les domestiques. Voilà, donc j'ai fait une liste, parce que sinon on est perdu. C'est un monde. Mais j'aurais bien aimé faire un index des noms propres, mais je pense que l'éditeur qui déjà regardait que c'était beaucoup trop gros, il n'aurait pas été content. Donc, j'ai fait juste 4 pages d'annexes.
En lisant le journal, on a le sentiment que ça ne s'arrête jamais.
Oui.
J'imagine que vous avez travaillé sur un manuscrit ?
Non, heureusement, l'arrière-petite-fille d'Eugénie a eu la bonne idée de taper le texte. Heureusement, parce que sinon, j'y serais encore. C'était trop... Donc, s'il fallait en plus que je déchiffre, non. Donc, Mais ça faisait une pile quand même qui était bien haute comme ça. Voilà. Oui. Non, j'ai pas travaillé sur le manuscrit. Je me suis fiée à ce que ça, l'arrière-petite-fille avait... Alors, il y avait eu un petit livre sur Eugénie par son petit-fils, Gaston, fils d'Henri. Alors voilà, ça s'appelle Madame John Bost, née Eugénie Ménardi Pontery. Voilà. Donc, c'est un petit livre qui est... parce que son petit-fils admirait énormément sa grand-mère. Il avait raison. Et donc, c'est la fille du petit-fils qui a tapé le journal. Voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Oui.
Aujourd'hui, il y a encore des... Enfin, si c'est laïque...
Enfin, oui, c'est laïque. Oui, tout à fait.
Culte...
Ah non, attendez. Alors, c'est laïque, ouais. Bien sûr, parce que la sécurité sociale paie. Ouais. Elle assure le quotidien. Les gens qui sont là, ils sont malades. Ouais. Donc, la sécurité sociale donne un prix de pension, paie les soins, etc. Mais... puisque la sécurité sociale intervient, c'est donc une œuvre qui accueille tout le monde. Et alors, il y a des protestants, des catholiques. Il y a eu une émission à la télévision un dimanche sur le John Boss, justement, et il y avait une dame qui avait été amenée à la messe, et qui expliquait, une dame handicapée, qui avait été amenée à la messe et qui expliquait combien la messe lui faisait du bien. Bon, très bien, ça... Il y a de très très bons rapports entre les prêtres catholiques locaux. Il y a 3 pasteurs à la force. 3. Vous voyez. Donc les rapports sont.
Est-ce qu'il y a toujours un lien aussi fort entre le culte et les asiles, comme c'était le cas à l'époque de John Bost maintenant?
Alors, pour vous dire, je vous dirais même la réflexion de Cabanel, il y a tellement de gens des asiles. Le temple, oui, le temple a été construit par John. C'est lui qui l'a dessiné. Et donc, il a prévu de part et d'autre de la porte d'entrée des loges dans lesquelles on mettait les épileptiques. Et s'il y en avait un qui avait une crise, il y avait un rideau qui tombait pour le séparer du reste des fidèles. Alors, dans ce temple, les résidents sont amenés en minicar. Et le dimanche, ils doivent s'inscrire. Et quelquefois, ils ne peuvent y aller que toutes les 3 semaines. Et comme a dit Patrick Cabanel, ah ouais, c'est bien le seul lieu de France où il y a la queue pour aller au culte. Vous voyez comme il est mauvaise langue. Bon, donc... il faut s'inscrire pour aller au culte. Et les résidents sont amenés, parce qu'ils sont encadrés par leurs accompagnateurs. Oui. Donc, je vous dis, quand on a assisté à un culte à la force, ça ne s'oublie pas. C'est poignant de voir l'émotion, la participation de ces résidents qui sont handicapés. Il y en a qui ont des gestes saccadés, il y a les fauteuils roulants. Quand j'y étais l'autre dimanche, il y avait 14 fauteuils roulants au premier rang, vous voyez. Donc c'est quelque chose de très... C'est là qu'on sent qu'il y a ce que la force essaie de donner, un sens. Voilà, apporter un sens à ces malades.
Est-ce que Eugénie... oui, excusez-moi, il y a une question.
Oui.
S'il vous plaît, oui. Vous parlez de force et d'asile. Quelle est...
C'est la fondation de John Bost. Mais si vous voulez, j'ai tellement vu les asiles dans le livre d'Eugénie que je... Et puis, si je ne veux pas faire d'anachronisme, ça, on s'appelle la fondation seulement depuis 1969. Ce sont les asiles John Bost. Voilà. Entre la mort de John et 1969. Et à partir de là, on dit la fondation de John Bost. Voilà. Excusez-moi. Oui.
Alors, on connaît la force depuis 2012.
Oui.
Et c'est pour dire que chaque donateur reçoit chaque trimestre un bulletin comme ça, où il y a le bilan financier et tout ce qui se passe
tout
un peu partout.
Oui.
Il y a même tout. Et aussi pour dire que, comme on chante beaucoup de cantiques, j'ai envoyé des CD de la mission et le pasteur initié m'a demandé la musique. des cantiques. Et Jean Boyer, les 360 cantiques de la mission en musique.
Mais actuellement, il y a une chorale à la force. Les résidents, il y en a qui participent à la chorale. Ils ne savent pas lire la musique, mais ils chantent quand même.
Les textes des cantiques de la mission, les ont intéressés. J'avais envoyé des CD.
Oui.
Et après, j'aurais envoyé la musique des cantiques.
Ils utilisent toujours cette méthode mise en place par John pour intéresser les résidents via la musique.
Oui, il y a une chorale, oui. Et puis, il y a une façon aussi de, pour les résidents qui ont du mal à comprendre, il y a une façon de présenter l'Évangile, une façon très matérielle, pour essayer de leur faire sentir les choses par les gestes ou par le toucher. Oui.
D'autres ?
Oui, oui. Pardon, excusez-moi.
L'élément déclencheur, qu'est-ce qui a fait que vous êtes intéressé à la vie de Génie ?
Qu'est-ce qui a fait que vous êtes intéressé à la vie de Génie ?
C'est le fils de la dame qui a tapé. Donc, c'est lui qui a été... il s'appelle Laurent Gervereau. C'est lui qui a été le grand artisan des festivités du bicentenaire de son ancêtre. C'est lui qui a donné ses souvenirs de famille, toutes ses archives, que maintenant il y a un centre d'archives à la Fondation et on a ouvert le musée. Voilà. Et donc c'est lui qui m'a demandé. Parce que je m'occupe des femmes protestantes. C'est ma tasse de thé. Les femmes protestantes du 19e siècle de préférence. Voilà. Donc. Il m'a demandé et j'ai... Donc, je pense que si j'avais su ce que ça représentait, peut-être que j'aurais... Mais il m'a demandé, ça vous intéresse, le journal de Génie Boss. J'ai dit, bah oui, journal de femmes du 19e, surtout la femme de John. Bon. Voilà.
Oui.
Non.
Je vais répéter la question.
Oui.
Pour
alors, est-ce que John s'était entouré de médecins ? Point du tout. Même une fois, le sous-préfet lui a dit :« Ne dites pas que vous accueillez des handicapés mentaux. » On dit ça aujourd'hui. Enfin bon, ne dites pas ça parce que vous auriez des problèmes. Vous accueillez des malades, etc. Ne dites rien. Bon. Donc non, pas du tout. C'était son inspiration. De toute façon, à l'époque, je vous dis. Il allait à contre-courant. Alors, il y a un médecin, mais qui soigne tout le monde. Je veux dire qu'il peut soigner les enfants des asiles, comme il soigne les enfants de John et Eugénie, comme il soigne les directrices des asiles. Voilà. Il soigne tout le monde. Mais il n'y a pas de spécificité pour les... Non, c'est l'inspiration de John. Et puis, les remarques qu'il fait, je vous dis, quand il a découvert que les petites filles étaient sensibles à la musique. Et donc, par la musique, on pouvait les amener à un progrès. Moi, ce qui m'a frappé...
C'est un risque à courir.
Oui. Ce qui m'a frappé dans le journal de Génie, c'est l'omniprésence de la mort. La mort est très, très présente. Les enfants des asiles meurent jeunes, oui, souvent. On ne sait pas soigner les gens, finalement. Donc, les enfants, ses propres enfants côtoient la mort. Oui, mais on ne... Il accueille, mais il n'y a pas de soins particuliers. Si ce n'est, je vous ai dit, l'hydrothérapie essayer l'hydrothérapie pour calmer les épileptiques. Mais il y avait dans l'asile des épileptiques, il y avait une pièce sans fenêtre. Quand ils avaient des crises terribles, on les enfermait là.
D'autres questions ? Parmi les connaissances que vous avez des femmes protestantes du XIXe siècle, quelle est la figure qui se rapprocherait à votre connaissance le plus de celle d'Eugénie ?
Peut-être Madame Émilie Mallet. Madame Émilie Mallet, mais elle a eu une œuvre différente.
Vous pouvez rappeler en quelques mots
C'est la fille d'Oberkampf, l'homme de la toile de Jouy. Elle a épousé un des frères Mallet, le second, parce que l'aîné était baron, c'est sa sœur qui l'a épousé, donc elle a épousé le second. Les Mallet, donc c'est une banque protestante très importante, ils viennent de Genève. C'est très important parce que au moment du Front populaire, 1936, il y a toujours un Mallet qui est régent de la Banque de France, c'est le 13e depuis Napoléon. Donc, vous dire l'importance de la banque. Donc, Émilie, elle fréquente la chapelle Tête-Boue. Elle est très... elle est marquée par le réveil. Elle a même édité un livre qui s'appelle « Prière à l'usage des familles chrétiennes », qui a eu 7 rééditions au cours du XIXe siècle. Bon, donc, et elle s'est... Alors, d'un point de vue sanitaire, si je peux dire, elle a soigné... les gens qui avaient le choléra. Vous savez, au XIXe siècle, en 1832, 1849, 1854, etc., il y a des épidémies de choléra. Et donc, elle soigne les gens, et à la grande horreur de sa famille, et elle les accompagne jusqu'à la fin. Et, parce que le choléra est extrêmement contagieux, hein, extrêmement. En 1832, le Premier ministre en meurt. Donc, c'est vous dire, même dans les milieux, bien sûr, sont les plus pauvres qui meurent le plus. Mais bon. Donc, Émilie Mallet, elle soigne les colériques. Même elle a vendu ses diamants pour créer un dispensaire. Et malgré l'argent que la banque Mallet lui donne. Bon. Et puis, sa grande œuvre, c'est de créer des salles d'asile pour les enfants des ouvrières. Parce que l'idée, c'est qu'il faut que les ouvrières puissent travailler, parce que sinon, le salaire de leur mari est insuffisant, donc il faut qu'elles puissent travailler, mais il ne faut pas que leurs enfants traînent dans la rue. Donc, elle va la créer, des salles d'asile. Voilà. Mais, si vous voulez, ce qui les rapproche, ces deux femmes, c'est leur foi absolue. Elles agissent menées par la foi.
D'autres questions ? Bien, écoutez, je vous propose de terminer ici cette rencontre. Je vous rappelle le cycle de conférences de la librairie. Vous pouvez vous munir du programme ici. La prochaine conférence ici à Alès, ce sera le 6 juin, le mardi 6 juin, et on recevra Jean Fontagneux, qui est le secrétaire général de la Fédération de l'entraide protestante, fédération qui aujourd'hui poursuit, si vous voulez, en quelque sorte, tout ce travail des œuvres protestantes. La fédération regroupe 350 associations et institutions qui travaillent dans le domaine du social, du médico-social, du sanitaire, et qui prolongent donc toute cette activité qu'on a essayé d'explorer ce soir un peu au XIXe siècle, mais qui, je l'ai dit déjà tout à l'heure, a commencé au XVIe siècle. Donc Jean Fontagneux, le mardi 6 juin à 20h30, ici dans les locaux de la mission Timothée, qui nous sont prêtés pour organiser ces rencontres.
Ça a commencé au XVIe, mais ça a été coupé pendant 2 siècles.
Oui.
Tout se reconstitue au XIXe.
Oui, c'est vrai.
C'est pas à vous que je vais l'apprendre.
C'est vrai. Merci pour cette précision, Gabriel.
Historique.
Fondamentale.